Les matins de France Culture.
Thomas Cluzel, la revue de presse internationale, avec quelque chose de plus stupéfiant encore, Thomas ?
Alors écoutez, pour le chroniqueur, en tous les cas du New York Times, pas de doute, l'annonce que Donald Trump aurait accepté de rencontrer Kim Jong-un avant l'été constitue ce matin la nouvelle la plus inattendue et la plus spectaculaire. C'est stupéfiant, dit-il. Je n'arrive même pas à croire que je suis en train d'écrire cela. Qui aurait pu en effet imaginer un tel rebondissement de la part d'un président qui, non content d'avoir appelé à la destruction totale de la Corée du Nord, s'était encore vanté quelques semaines plus tard d'avoir un plus gros bouton nucléaire que son rival. Et désormais, toute la question est donc de savoir si une telle annonce constitue ou non une bonne nouvelle. Sur ce point, et même si le journaliste rappelle avoir plaidé pendant des années pour l'ouverture de pourparlers directs entre les États-Unis et la Corée du Nord, une telle rencontre constituerait, selon lui, non seulement un pari dangereux, mais aussi une mauvaise idée. Pourquoi ? Tout d'abord en raison de la personnalité des deux protagonistes, des showmen, dit-il, dont le talent pour le drame et l'inattendu n'est plus à démontrer. Alors évidemment, cela promet un sommet palpitant, mais cela pourrait tout aussi bien favoriser le pire si les choses venaient à mal tourner. Ensuite, si l'on considère que cette annonce spectaculaire revêt un avantage certain pour Donald Trump, en diversifiant pour un temps du moins les manchettes des journaux, guerre commerciale, enquête russe, actrice porno, notre président acceptera-t-il n'importe quel plan farfelu juste pour la gloire d'être le premier à sceller un accord. On ne compte plus les exemples où Trump, après s'être prononcé un peu trop vite, a dû faire appel à ses conseillers pour nous expliquer qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Or, s'agissant de la Corée du Nord, difficile de s'engager comme un idiot ou, pour le dire plus délicatement, par inadvertance. Enfin, nous ne savons toujours pas ce que Kim Jong-un attend de nous et un sommet raté pourrait déclencher de nouvelles escalades de part et d'autre, ce qui pourrait nous conduire à une situation plus exécrable encore que celle dans laquelle nous sommes actuellement plongés.
Et faut-il seulement s'en étonner. Hier, la Birmanie a rejeté les accusations de nettoyage ethnique formulées par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU.
Oui, alors que plus de 700 000 musulmans Rohingyas ont été poussés à l'exode depuis la fin août, le conseiller birman à la sécurité nationale a déclaré « Lorsqu'il y aura des preuves claires de nettoyage ethnique ou même de génocide, nous veillerons à ce que des mesures soient prises contre ceux qui ont commis des crimes ou ceux qui ont commis des abus. Je peux vous assurer que le gouvernement ne laissera pas cela se produire. » Alors, comment dire que ce n'est pas véritablement ce que laisse entendre cet article du magazine Time dans lequel on apprend que plus de 43 000 parents Rohingyas sont aujourd'hui portés disparus. 43 000 parents dont les experts en réalité craignent qu'ils ne soient morts. Des chiffres qui contredisent donc le nombre officiel de Rohingyas tués calculé par le gouvernement et fixé aujourd'hui à 400. Alors cette crise, on le sait, vient de ce qu'une majorité des Birmans considèrent aujourd'hui les Rohingyas comme des étrangers et les voient comme une menace à la prédominance bouddhiste du pays. Ce qui laisse place ce matin à une autre forme de stupéfaction. Comment des bouddhistes, et puis encore des moines bouddhistes, supposément pacifistes, peuvent-ils se rendre coupables de telles exactions, s'interroge le magazine Slate. Tandis que toutes les religions sont régulièrement et tour à tour accusées des maux de la violence, le bouddhisme, généralement auréolé d'une présomption d'innocence tenace, semble, ou du moins semblait jusqu'à présent, échapper à cela et baignait au contraire dans une immunité idéologique qui le préservait de tout soupçon. En réalité, si la violence actuelle déployée contre les Rohingyas n'est pas uniquement religieuse, elle demeure liée à des campagnes idéologiques visant à faire revivre la tradition bouddhiste de Birmanie, entendue par certains comme le marqueur de la vraie identité birmane, et à la protéger contre la menace que représenterait l'islam. Il y aurait là, en somme, une dissociation entre une doctrine donnée, une conception angélique du bouddhisme comme état d'esprit et son exploitation politique, mais pire encore, selon des chercheurs interrogés par The New York Times, notre propre perception du bouddhisme comme pacifique et tolérant peut elle-même contribuer à un discours global qui, en Birmanie, a fini par représenter les musulmans comme des sous-citoyens, en réalité des sous-hommes, comme dans bien d'autres endroits de la planète.
Et puis alors Thomas, autre forme de stupéfaction, on en a parlé depuis une semaine, pas une seule journée ne se passe sans que la presse britannique ne fasse état de dernières révélations au sujet de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia qui sont toujours dans un état critique.
Et ce matin, The Times en particulier raconte comment un éminent présentateur de la télévision d'État russe est allé jusqu'à prédire la mort ou la maladie pour tous ceux qui ont trahi la Russie, évoquant, je cite, des quantités industrielles de morts. Il a averti les traîtres de ne pas s'installer en Grande-Bretagne au risque d'y être tués. Enfin, quand stupéfaction rime ce matin avec désolation, hier un commandant des forces alliées au régime du président Bachar al-Assad a déclaré que l'armée avait coupé en deux l'enclave rebelle de la Ghouta orientale où près de 400 000 civils vivent dans des conditions que les organisations d'aide humanitaire jugent dramatiques, et ce alors que la communauté internationale semble chaque jour un peu plus impuissante. À ce titre, The New Yorker raconte ce matin comment un photographe syrien s'est risqué à sortir dans la rue au péril de sa vie cette semaine pour trouver un accès à Internet et savoir si le Conseil de sécurité des Nations Unies avait enfin négocié un cessez-le-feu. Des avions ont commencé à voler au-dessus de sa tête, larguant des bombes à 4 reprises, dont l'une est tombée à 200 mètres seulement de là où il se trouvait. Puis toujours dans ce même article, Réan, jointe par téléphone, raconte pour sa part qu'elle n'a pas mangé depuis 16 heures. Aujourd'hui, la vie s'est arrêtée. Personne n'ose plus s'aventurer dans la rue pour trouver à manger. C'est devenu une mission suicide, dit-elle, avant d'ajouter « Ici, désormais, il pleut des bombes ».
Merci Thomas Cluzel.